je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Dans cette émission, dans un premier temps, vous pourrez écouter un extrait de l'émission de Vive la Sociale, émission diffusée le premier jeudi de chaque mois sur Fréquence Paris Pluriel de 19h à 20h30 sur le mouvement en cours en Serbie. Dans un deuxième temps, une intervention de Kostas sur les raisons du mouvement en Grèce. Puis, pour ne pas oublier la France, nous diffusons un extrait de l'intervention de Fabrice Alfi, journaliste d'intervention, lors de son audition dans la commission d'enquête parlementaire du Sénat sur la corruption en France.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec l'émission Vive la Sociale. Alors que tout le monde en ce moment regarde avec effroi ce qui se passe au pouvoir de l'autre côté de l'Atlantique, nous allons, nous, regarder ce qui se joue du côté des mouvements sociaux qui agitent actuellement la région des Balkans, et notamment la Serbie. La Serbie connaît en effet depuis novembre dernier un mouvement de contestation du système qui gagne en ampleur et touche l'ensemble de la société, sans vraiment susciter l'intérêt des grands médias. Pour nous en parler, nous avons sollicité Jean-Arnaud Derrins, co-auteur du livre « Les Balkans en sans question, carrefour sous influence » paru aux éditions Taillandier, et surtout rédacteur en chef du Courrier des Balkans, le site d'information de référence sur cette partie du monde. Nous le remercions vivement d'avoir accepté d'en parler sur cette antenne. C'est donc Jean-Arnaud Derrins que vous allez entendre dans cette interview d'une heure, réalisée à distance le lundi 3 mars. Suivront dans la dernière demi-heure quelques courts témoignages d'autres collaboratrices du Courrier des Balkans, enregistrés eux aussi à distance le même jour.
La Serbie connaît certainement le plus fort mouvement social de son histoire récente, en tout cas depuis la chute de Slobodan Milošević en octobre 2000. Alors, ce mouvement a commencé de manière, je dirais, presque triviale ou anecdotique par l'effondrement de l'auvent extérieur de la gare de Novi Sad, la grande ville du sud du pays, le 1er novembre dernier. Cette catastrophe a provoqué la mort de 15 personnes, ce qui en soi bien sûr est tragique, mais ce qui a été perçu très vite par la population comme le symbole de la corruption généralisée du pouvoir en Serbie venait d'être refaite par une entreprise chinoise, que cette gare à peine refaite s'effondre, c'était quelque chose qui n'était pas normal, bien évidemment, et qui laissait entendre qu'il y avait bien eu malversation dans le chantier, dans le contrat. Et donc, assez rapidement, les gens se sont mobilisés pour dénoncer la corruption autour d'un slogan « La corruption tue ». Il y a eu de premières manifestations à Novi Sad dès le début du mois de novembre. Et puis, je dirais que dans les semaines qui ont suivi, ce mouvement s'est un tout petit peu étendu à Belgrade, à quelques autres endroits, à certaines universités, certaines facultés. C'est là où les choses ont basculé, puisqu'il y a eu de la violence contre les étudiants, de la violence alors commise par des individus parfois masqués, en tout cas en civil, anonymes, on ne sait pas trop par qui, des sbires, des séides du pouvoir. Et ces actes de violence ont eu pour effet de radicaliser le mouvement, d'amener d'autres étudiants à se mettre en action. Et dès le début du mois de décembre, des dizaines de facultés et d'écoles supérieures étaient occupées à travers toute la Serbie. Aujourd'hui, c'est à peu près une soixantaine de facultés et d'écoles supérieures qui sont toujours occupées. Ce mouvement donc a pu s'est construit à partir de ces facultés occupées qui sont où l'action est dirigée par des plénums étudiants avec une très très forte exigence de démocratie directe, d'égalité dans la prise de parole. Il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de leader, il y a vraiment un mouvement qui part et qui se structure depuis la base, depuis ces plénums étudiants présents dans toutes les facultés occupées.
L'émission Vive la Sociale, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, se poursuit maintenant avec trois courts témoignages recueillis au cours du webinaire intitulé « Une exigence de justice qui embrase les Balkans », organisé le 3 mars et toujours par le Courrier des Balkans. Le premier porte notamment sur le fonctionnement des plénums étudiants, le second sur l'agitation sociale qui a maintenant gagné sous une forme un peu différente la Bosnie-Herzégovine, et le troisième évoque les raisons de l'immense mobilisation du 28 février en Grèce.
Le fait nouveau, c'est que ces étudiants, le mouvement qu'ils mènent est un mouvement extrêmement différent de ce qu'on a eu dans les années 90. Leur mot d'ordre, c'est vraiment une démocratie directe. Ils ne fonctionnent que par plénum. Le plénum, ça veut dire que tous les étudiants qui le veulent sont invités à faire partie de ces espèces d'assemblées. C'est bon, ça remonte aux Grecs anciens, mais la dernière fois, par exemple, ça a été appliqué. Ce concept de démocratie directe, c'était lors de la Commune de Paris. Et donc, ils ont tous le droit, qu'ils soient pour ou contre les blocages des universités, ils ont tous le droit égal à participer. Le temps de parole est limité de 1 minute à 3 minutes selon les facultés. Dans les facultés de sciences exactes, c'est plutôt 1 minute. Fac de philo, c'est entre 3 et 5. Les plénums durent entre 1 heure et 3, 4, 5 heures. Pareil, fac de philo, ça peut aller jusqu'à 6 heures. Et là, on s'exprime de manière égale. Mais il faut que ce soit argumenté, les décisions sont prises à la majorité. Le corps enseignant a le droit d'y participer, pas le droit de voter, et personne d'autre n'a le droit d'assister au plénum. C'est très difficile de rentrer dans les facultés, il faut passer par l'autorisation du plénum, justement, et l'organisation est absolument exemplaire à l'intérieur des facultés. Il y a d'abord des étudiants qui gardent les facultés. Il y a des salles où on rassemble les donations, notamment nourriture, les salles où on mange, les salles où c'est comme des ateliers avec plein de pinceaux, du scotch, du carton, etc., où on crée les slogans et on fait les pancartes. Moi, je suis allée à la faculté de génie mécanique. Les étudiants n'y dorment pas par mesure de sécurité parce qu'il y a trop de machines justement qui sont dangereuses. Mais là où on dort, là aussi, tout est vraiment cadré, organisé, etc. Et cette démocratie directe, c'est quand même quelque chose dont on n'a pas parlé depuis au moins plus de 150 ans. Une autre chose sur laquelle j'aimerais insister pour justement le note d'espoir pour la fin, ce qui est intéressant avec ce mouvement, c'est que justement, il n'est pas nationaliste. Non seulement il n'est pas nationaliste, mais il a réussi à solidariser une population serbe éclatée, non seulement entre la gauche, la droite, les pro-serbes, les pro-russes, les pro-européens, etc. Elle a réussi, par exemple, à intégrer ou réintégrer les étudiants du Sandjak, notamment de Novi Pazar, où vivent majoritairement des Serbes de confession musulmane, qu'on appelle les Bosniaques, qui se tiennent à l'écart de la politique depuis 30 ans, qui ont subi des choses très difficiles dans les années 90. Et là, pour la première fois, ces étudiants font partie du mouvement. Ils ont fait les marches, ils ont invité les étudiants à tous venir à Novi Pazar. Ils s'y sont rendus deux jours avant Niš. À Niš, l'hospitalité a été extraordinaire pour tout le monde, mais pour les étudiants musulmans, pour lesquels ça correspondait au premier jour du Ramadan, on a également préparé un iftar, donc un repas traditionnel auquel on est convié après le coucher du soleil. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on n'a pas vu ça dans la région, où des enfants musulmans, enfin des jeunes étudiants musulmans, orthodoxes, catholiques, pas croyants, etc., sont tous ensemble pendant les 15 minutes de silence en hommage aux victimes de l'auvent effondré, et chacun fait sa prière à sa façon. Et ça va tellement loin que la solidarité régionale est absolument extraordinaire. On a vu de nombreuses manifestations de solidarité, notamment en Croatie. Bon, la Bosnie-Herzégovine, c'est peut-être moins étonnant parce qu'il y en a souvent, mais en Croatie, jusque dans les petites îles, il y a eu des manifestations de solidarité avec le mouvement étudiant. Il y a eu des gens de Zagreb qui sont venus à Niš pour masser les étudiants et leur apporter une aide médicale. Et pour terminer, à Niš, on a aussi dansé le kolo, cette danse-là en rond, avec un drapeau yougoslave à la main.
Ce qui va surtout prédominer en Bosnie-Herzégovine, c'est la volonté, en fait, de changer tout un système. Là, le 23 février dernier, on a ce mouvement dont je vous parlais en préambule, Ustaje. Donc on a Brčko, Zenica et Sarajevo qui, le 23 février, ont demandé tant au niveau du district que de la fédération une amélioration globale de la situation économique du pays. C'est vraiment la chose qui va prédominer. Ils l'auront donné jusqu'au 10 mars. Ensuite, là, on attend. On a les informations un petit peu au compte-gouttes. Enfin, il faut que les choses se mettent aussi en place. Et surtout, c'est qu'on peut avoir des week-ends très chargés, comme je le disais, avec énormément de manifestations, différentes les unes des autres. Manifestations contre les violences faites aux femmes, manifestations contre l'inflation, pour la justice, à Donia Jablanica. Et finalement, il n'y a que celle de Zenica qui arrive à fédérer. Mais ça aussi, c'est assez intéressant, puisque Zenica, on est sur une ville industrielle, ouvrière, avec une volonté aussi de faire changer les choses. Et on a aussi, comme disait Milica, elle parlait des mines de lithium. La Bosnie aussi est un terrain gigantesque de mines. On va avoir un peu partout en Bosnie des groupes de citoyens. En parlant avec des interlocuteurs, je me rappelle l'année dernière, j'avais fait un papier qui concernait le paiement en fait des enseignants, notamment dans les cantons en fédération. Et cette représentante du syndicat me disait qu'elle était très fière d'avoir pu en fait fédérer des gens de Croatie, de Serbie, du Kosovo, du Monténégro, en me disant que finalement il n'y avait que dans ces mouvements citoyens, ces groupes citoyens, qu'on parvenait finalement à avoir une espèce de réunification où en fait le dialogue interethnique était possible parce que les causes finalement étaient les mêmes, les batailles étaient les mêmes. Et c'est quelque chose que, en tout cas, moi je retrouve dans ces divers mouvements qui incluent tout le monde et surtout on appelle tout le monde en fait à y participer. On a eu les étudiants au début, mais les étudiants, surtout à Zenica et à Kakan, ont été rejoints par les retraités. Finalement, la proportion de gens qui participent le moins à ces manifestations, c'est la part de la population active qui, en tout cas, se manifeste moins en Bosnie que ces deux tranches de la population que sont les étudiants et les retraités.
En Grèce, effectivement, alors c'est très intéressant d'écouter toutes les autres mobilisations qui, d'un côté, ne sont pas tant liées à ça, mais il y a quand même un parallèle, un ras-le-bol vis-à-vis de la corruption. Donc effectivement, vendredi, on commémorait aussi l'accident de Tempé, l'accident de train il y a 2 ans de Tempé, qui est donc le plus grave accident de l'histoire ferroviaire du pays. Alors, je fais peut-être un petit résumé de ce qui s'est passé. Le 28 février 2023, sur la ligne Thessalonique-Athènes, 2 trains, l'un de passagers, l'autre de marchandises, se percutent l'un l'autre puisqu'ils roulent sur la même voie. Ça faisait 12 minutes qu'ils roulaient sur la même voie sans que personne ne s'en aperçoive, ni les autorités, ni les chefs de gare, faisant donc 57 morts, dont une majorité d'étudiants qui rentraient d'un long week-end de jours fériés. Ce qui s'est passé les semaines qui ont suivi, c'est que après le choc, évidemment, parce que tout le monde s'est senti concerné, tout le monde avait potentiellement des cousins, des amis, des enfants qui faisaient leurs études à Thessalonique ou à Athènes et qui prenaient ce train souvent, en fait. Donc après le choc, on a découvert l'ampleur du désastre, à quel point était dans un état de décomposition le réseau ferroviaire. Et en fait, ça a été un effet domino de révélation sur des contrats gouvernementaux, des contrats publics qui n'avaient pas été achevés, qui auraient dû être achevés depuis près de 10 ans, tout le réseau de sécurité qui n'était pas effectif. Donc déjà, les Grecs apprenaient que ça faisait des années que les syndicats de cheminots prévenaient, etc. Il y avait des mises en demeure. Les cheminots ont dit après coup, en fait, on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas quand. Donc après, ce qui s'est passé là, c'est que tout s'est enchaîné. Le gouvernement a enchaîné presque les provocations, qu'il a voulu enterrer tout ce scandale, en fait. Donc pour commencer, une délégation gouvernementale qui est passée voir les lieux de l'accident, le lendemain, ils ont décidé de tout recouvrir de gravats, d'enterrer toute la scène en fait de l'accident de gravats. Donc gros tollé, des familles qui demandent des explications, etc. Déjà un premier tollé pour le grand public. Et ensuite, on est suivi une commission d'enquête, le parquet européen qui a demandé des comptes en disant « Mais qu'est-ce qu'il en est de ce contrat? Vous auriez dû l'achever il y a 10 ans et ça ne se serait pas produit ». Puis, en plus des histoires d'explosifs qui étaient transportés illicitement dans un des wagons de marchandises qui a explosé, qui aurait causé la mort peut-être d'au moins une dizaine de personnes. Bon, bref, une addition d'éléments plus surréalistes et plus révoltants les uns que les autres, qui ont fait qu'en 2 ans, la colère est montée. Et donc, une mobilisation qui est effectivement liée à un sentiment de situation générale de corruption. Mais voilà. Et puis concernant la mobilisation donc de vendredi, qui est hyper important à souligner, c'est que c'est probablement moi personnellement, j'ai jamais vu ça. Une mobilisation, c'était vraiment à Athènes, c'était une marée humaine qui partait de 2 stations de métro plus loin. Enfin, c'était du jamais vu. En plus, il y a une dispersion assez violente à partir des 13 heures. Et alors là, c'est dispersion au gaz lacrymo, des grenades directes, etc. Alors qu'il y avait vraiment en plus des retraités, des étudiants, etc. Donc mobilisation vraiment historique à Athènes. Et c'est pas tout à fait ce qui se passe en Serbie, par exemple. J'ai pas l'impression que c'est une mobilisation qui dure ou quoi. C'est quelque chose de ponctuel, mais c'est un besoin quand même de dire son ras-le-bol et sa colère. Tout le monde était là. Tout le monde était là vraiment. Les retraités, les gens de gauche comme de droite, parce que c'est pareil. C'était vraiment une mobilisation qui faisait l'unanimité. Alors, apolitique, je ne sais pas si c'était le mot, en tout cas, il y avait certainement des gens aussi bien de gauche que de droite, que ce que vous voulez. Alors, pas apolitique dans le sens où pointe du doigt quand même des grosses défaillances politiques du gouvernement, etc. Mais apolitique dans le sens où il y a aussi une espèce de sentiment que tous les hommes politiques, tous les partis politiques, de toute façon, sont les mêmes. Et d'autant plus que donc les Grecs sortent de 10 années de crise économique et politique et d'instabilité politique et qu'ils ont... Il y a un espèce de traumatisme, quoi. Donc, ils veulent quand même une stabilité à côté, tout en criant leur rage autour de cet événement.
Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Costas. J'habite en France depuis 20 ans. Je travaille dans le secteur du social. Je viens de Grèce, je viens d'Athènes. Et voilà.
Et voilà. Et tu as gardé toujours pas mal de liens avec la Grèce.
Effectivement, du fait qu'avant de venir en France, disons que j'étais engagé à divers groupes collectifs, j'ai continué mon engagement en France et effectivement, je maintiens des liens tant avec des groupes que des gens en Grèce.
pour situer la Grèce à partir de 2008, si c'est possible de faire juste un petit historique. Il y a une crise économique mondiale qui a touché particulièrement la Grèce. Et la corruption en Grèce, ça date pas d'hier. Donc peut-être il faut refaire un petit...
Récapitulatif des choses importantes peut-être qui se sont passées. Je trouve que c'est une bonne question, car ça permet, si tu veux, de prendre en compte des événements qui se sont passés à la société grecque et qui sont en lien avec ce qui se passe actuellement. Ça nous permet donc d'avoir peut-être... Ce type de questions nous permet d'avoir une vue d'ensemble et de non pas de prendre un événement et de l'analyser en tant que tel. Si on le faisait, on aurait raté des éléments importants. Donc, pour revenir sur ta question, pourquoi 2008? Parce qu'en décembre 2008, un petit est tué dans le quartier d'Exarchia par un policier, ce qui déclenche des affrontements le soir même avec la police qui s'étendent. Et du coup, on parle depuis de la révolte qui a eu lieu à partir du mois de décembre 2008. Ça, c'était un événement effectivement très, très, très marquant. Et puis après commence la période des manifestations, des grèves, d'opposition aux politiques imposées par ce qu'on appelle en Grèce la Troïka, donc la Banque Centrale Européenne, l'Union Européenne et le FMI. Commence donc cette vague de protestations qui dure environ 2 ans. Comme principale revendication, il y a le rejet des accords d'austérité, si je peux le dire comme ça. Ouais, en Grèce, ça s'appelle mémorandum. J'ai lisé il y a quelques jours... un article des camarades qui sont des camarades anarchistes qui sont actuellement emprisonnés en Grèce et qui situe effectivement le début de cette période d'austérité forte en 2010-2012, ce qui justement qui pourrait permettre d'expliquer aussi la situation actuelle. Donc 2010-2012, avec en 2013 en février, si je ne me trompe pas, une dernière grande manifestation qui a signalé, on va dire, la fin de ces mouvements-là. On peut très clairement parler de défaite de notre côté. Si on parle donc d'un point de vue des révolutionnaires ou des mouvements sociaux, on peut parler d'une défaite. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Pourquoi? Parce que en 2015, la gauche vient au pouvoir et gouverne le pays pendant 4 ans avec l'aide d'un parti, on va dire, des nationalistes qui se situe plus vers l'extrême droite. Donc Syriza gagne les élections, grand déboussolement des gens, d'autres qui espéraient que ça allait mieux, d'autres espéraient que ça allait peut-être consolider quelques acquis, ou même ça permettait au gouvernement de Syriza de faire des avancées. Il y a très peu de gens qui ont critiqué l'avènement du parti de gauche au pouvoir. Il y a très peu de gens qui ont condamné les illusions même d'une partie du mouvement, on va dire, révolutionnaire. Mais à la fin, il s'avère que les analyses qui disaient que le parti de gauche, à la fin, va appliquer plus ou moins les mêmes politiques, et bien ces gens-là, ces analyses-là, se sont avérés corrects, vrai.
Très, très juste. Et puis, juste, je voulais rappeler, parce que ça pourrait, Syriza, ça pourrait nous faire penser version française un petit peu à Mitterrand, à Hollande, où il y a toujours beaucoup d'espoir et puis qui sont très, très, très vite trahis. Je voulais juste dire aussi, si tu veux, que il y a eu un référendum en 2015, pour demander aux Grecs ce qu'ils pensaient justement des propositions des banques. Et les Grecs se sont prononcés un peu comme nous pour l'Europe. Et puis finalement, le gouvernement s'est assis sur les décisions des élections.
Exactement. Donc, à un moment donné, il y a un grand mouvement, on va dire, de protestation contre les mesures imposées par la Troïka. À un moment donné, le pouvoir amène à table la proposition de faire un référendum. Or, manque de bol pour le pouvoir, les gens votent, et les gens votent massivement contre les propositions, certaines propositions de la Troïka. Sur le coup, les gens sont contents, le pouvoir n'est pas content. À la fin, il retourne sa veste, Syriza et Tsipras, donc le chef de l'époque, il applique exactement le contraire. 3 mois, il refait les élections, il gagne les élections. Et puis après, l'histoire, elle est connue. C'était une sorte, on va dire, de pierre tombale, on dit. En Grèce, ils disent pierre tombale pour les mouvements...
Enterrement
pour les mouvements, pour les mouvements sociaux. C'est-à-dire que depuis cette période-là, depuis donc 2013, on va dire, l'intensité des mouvements sociaux, elle est bien tombée. Chose qui a été empirée avec l'arrivée en 2019 de la gouvernement de droite qui... Quelque part, c'est la continuité aussi de ce que Syriza a pratiqué, par exemple, en ce qui concerne les sujets qui nous préoccupent dernièrement, donc la question des chemins de fer, avec une couleur d'extrême droite, patriotique et nationaliste, réactionnaire, on peut dire carrément, dans le sens de l'économie ou des sujets, on va dire, qui concernent la société. Et avec, évidemment, une intensification aussi de la répression des gens qui résistent, qui essaient de mettre en place des choses pour faire face, on va dire, aux conditions de vie difficiles qui s'empirent de plus en plus.
Alors justement, par rapport à ces conditions de vie difficiles, est-ce qu'on peut rapidement dresser un état des lieux? Parce que nous, les informations qu'on peut avoir en France, alors c'est quand même assez étonnant de voir à quel point on a peu d'informations en dehors de la France. Donc on ne sait pas ce qui se passe en Espagne, en Angleterre, en Grèce, etc. Mais ce qu'on a pu voir un peu, c'est quand même une extrême misère, avec énormément de gens qui se retrouvent sans retraite, sans domicile, même avec des queues impressionnante pour les soupes populaires.
La question elle est vaste. Nadia, je ne pense pas qu'on pourrait répondre
en
si peu de temps, mais peut-être donner quelques éléments. Comment dire ? On peut peut-être se focaliser sur des éléments qui concernent, selon moi, pas seulement la société en Grèce, mais la société chez nous, ici en France ou dans d'autres pays. Donc, je vais parler tout d'abord de la question donc, de la dévalorisation du travail, qui passe par des salaires donc, qui ne sont pas élevés, qui sont très bas, qui passe par des conditions de travail qui sont de plus en plus dures, qui passe par, on va dire, les changements du cadre institutionnel et légal. Donc là, je parle des conventions collectives, des accords au sein des entreprises. Bref, qui depuis des années, non, il s'agit d'une spirale, non, d'une spirale donc, qui font que les salariés ont de moins en moins de moyens, s'appauvrissent. Et de l'autre côté, les conditions d'accès au chômage et le chômage en termes de sommes d'argent, il est bien, bien réduit. Les conditions sont plus difficiles. Ouais. Donc il s'agit des tendances qu'on voit, j'ai envie de dire, à toute l'Europe. Ouais. Et moi, je souhaiterais tout d'abord préciser donc, ça, c'est-à-dire que les gens qui ont un travail et qui arrivent à avoir un salaire, souvent eux-mêmes sont dans des conditions difficiles. Voilà. Pourquoi ? Parce que le salaire il est bas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de droits via ces salaires-là, et parce que également les droits, les conditions de travail sont globalement dures. Ça c'est la première partie. Et puis après, n'étant pas évidemment dans une logique personnellement qui s'attend de l'État d'accomplir ses obligations. Parlant donc des services publics, de la santé et de l'éducation, ben on voit la catastrophe. Déjà en 2000, lors de la crise de la pandémie Covid, ça a été complètement visible. Là ça devient de pire, de plus en plus difficile. Donc services publics d'éducation, services publics de santé, qui sont ensuite libres, et ben voilà, selon moi, des exemples très significatifs des conditions de vie qui se sont détériorées. Concrètement, en fait, ça voudrait dire quoi, hein ? Concrètement, ça veut dire qu'une personne qui nécessite d'aller à l'hôpital ne trouve pas d'hôpital à côté de chez lui, est obligée de faire des heures et des heures avec s'il y a une ambulance, parce que parfois il n'y en a pas, et la personne, elle meurt. Donc, avant d'arriver à l'hôpital. C'est très, très, très concret au niveau de l'éducation. Des bâtiments qui n'existent pas, des bâtiments qui tombent en ruine. Ça a été le cas avant en Grèce. La question de la corruption est une question endémique, non ? Ou endémique selon moi, selon le système, au système capitaliste et comme ça de gestion de la société par l'État. Mais on peut parler de la Grèce et on peut dire que c'est effectivement endémique, il y a de la corruption depuis très longtemps. Mais ces politiques-là ont bien empiré la situation. Et voilà, on a les résultats. Quand on parle donc, par exemple, de l'accident, entre guillemets, de train, ouais. ça rentre dans les mêmes cadres. Logique, de ouais. plus en plus, et depuis des années, l'État s'est désinvesti de la gestion du financement du chemin de fer.
Donc c'était en 2023 ?
L'accident ferroviaire, ouais. oui, c'était en février, fin février 2023, oui.
Ouais, et donc il y a eu 57 morts suite à cet accident, ce qui est quand même énorme. Qu'est-ce qui a ranimé les révoltes qu'il y a en ce moment ?
Bah, c'est une vraie question aussi pour moi. C'est illustrateur de la période, c'est-à-dire qu'un grand mouvement social revendicatif a lieu en Grèce, peut-être le plus grand, hein, et ce n'est pas, comment dire, d'une première vue, ce n'est pas politique, ce n'est pas sur des questions de travail, sur la question des retraites. Mmh. C'est sur un événement qui, un accident entre guillemets. Donc pour moi, c'est une bonne question. En fait, je pense que les gens nous réfléchirons encore à l'avenir du comment ça s'est fait qu'il y a ça qui a éclaté, parce que on se demande, parce que c'est énorme en fait. Hein. C'est-à-dire que les manifs qui ont eu lieu là il y a quelques semaines sont plus grandes qu'il y a 15 ans. Elles sont plus grandes que d'autres manifs auparavant. Donc, on se demande pourquoi. Quelques éléments peut-être qui pourraient permettre de comprendre, c'est en fait que les contextes justement qu'on décrivait tout à l'heure, ouais. eh ben, c'est pas les bons. Ouais. C'est-à-dire, quelque part, les gens, ils en ont marre. Suite à l'accident, encore une fois, entre guillemets, l'attitude, j'ai envie de dire banale, des gouvernants, elle était à tel point exécrable que je pense que c'est ça qui a beaucoup fait que les gens, à un moment donné, se sont mis vraiment, vraiment en colère. Ouais. Donc, juste pour donc amener cet élément-là de l'arrogance du pouvoir. Hein. Mmh. Voilà. Et qui compose, oui, effectivement, toute la jeunesse, elle est mobilisée. Pourquoi toute la jeunesse, elle est mobilisée ? Et pas que la jeunesse, d'ailleurs, tout le monde est mobilisé. Mais pourquoi ? Parce qu'à la fin, tout le monde s'est, comment dire, tout le monde a pensé qu'il pourrait être à la même place que les personnes qui étaient dans les trains. Par exemple, moi-même, j'ai déjà pris ces trains-là, ces trajets-là, je l'ai pris des dizaines de fois. Mmh. Donc, en fait, quelque part, tout le monde pouvait être à la place des gens qui sont morts. Les étudiants, pourquoi ? Parce qu'il y avait des étudiants dans les trains, il y avait beaucoup de jeunes dans les trains, il y avait d'autres personnes qui étaient moins jeunes. Tout le monde se reconnaît, en fait, aux victimes. Ouais. Voilà. Qui participe ? Eh ben, donc, c'est les organisations de la jeunesse, notamment les étudiants. Les écoles, les lycées et les collèges sont mobilisés lors de grosses journées de mobilisation ou aux alentours de grosses journées de mobilisation. Et puis après, j'ai envie de dire que ça va au-delà du monde du travail. On a vu donc le monde du travail qui a fait la grève massivement en fin février, deux ans après l'accident. Mais ça va au-delà du monde du travail, c'est-à-dire il y a les retraités, il y a les pères et les mères des familles. Il y a une grande, grande, grande partie de la population qui prend partie aux mobilisations, pas uniquement dans les grandes villes. Ce qui s'est passé en fin février, c'est vraiment historique. Il y a eu des mobilisations partout, dans des petits villages, dans les grandes villes, dans des petites villes, par des étudiants, par des salariés, par des retraités. C'est vraiment historique, en fait. Mmh. Et la question, c'est comment ça va évoluer. Une bonne question.
Alors, je voulais juste rappeler que l'État, quand tu disais, a eu une attitude exécrable, elle a inculpé le chef de gare, c'est-à-dire elle a imputé à une faute individuelle l'accident.
Humaine, comme ils disent.
Humaine, voilà, c'est ça. Alors que le chef de gare avait tout à fait prévenu de la situation et pas du tout mis en cause les pertes d'emploi, les manques d'investissement, d'entretien, la privatisation du chemin de fer, etc. Donc, ce que dénonce aujourd'hui le mouvement.
Pour ajouter un élément, hein, surtout avec ces premiers ministres, à chaque fois qu'il y a eu un problème, un scandale, un problème, bref, la réponse, elle a été la même. Je ne savais pas, peut-être je me suis trompé, on m'a mal conseillé, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas la première fois que ça a été dit. Mais du coup, je pense que là, les gens, ils se sont vraiment, vraiment mis en colère. Parce que si tu veux, surtout sur cette situation, mais il y a des choses qu'on ne peut pas mettre de côté. Par exemple, il y a quelque chose qu'on ne dit pas souvent sur cette histoire, c'est qu'un mois avant l'accident, c'était la énième fois que les salariés de la SNCF ont essayé d'avertir pour dire qu'il risque d'avoir un accident. Mmh. Une semaine avant l'accident, il y a le ministre de l'époque qui sort et qui dit « C'est inadmissible de mettre en cause la sécurité des chemins de fer. » Une semaine avant l'accident, c'est le ministre qui le dit. Lorsque l'accident a lieu, il n'a même pas le courage de partir, en fait. On voit, par exemple, en Serbie, il y a des politiciens qui, hop, sont partis. On voit la Macédoine du Nord, parce qu'avant-hier, il y a eu pareil, il y a eu un accident. Des gens, en fait, partent, quittent le gouvernement. Là, en Grèce, pour le moment, si je ne me trompe pas, il y a une ou deux personnes qui sont partis, en fait. Mmh. Donc, ils n'ont même pas le courage, en fait, de reconnaître que peut-être, effectivement, c'est un peu de leur faute pour dire ça.
Voilà. Ouais, ouais. Alors, je voulais juste avoir un petit peu plus d'informations sur comment le mouvement s'organise, s'il s'organise. C'est-à-dire, est-ce que les facs sont bloquées? Est-ce qu'il y a des grosses grèves? Comment se prennent les décisions? Comment ça discute de...
La Nadia, j'essaie, moi, que... Pas beaucoup d'informations pour te transmettre actuellement comment s'organise. Je sais que traditionnellement, les mouvements dans les facultés, c'est les assemblées générales. Dans les écoles, quand ça bouge, pareil, c'est des assemblées générales qui, après, les jeunes y participent. Mmh. Les mouvements anarchistes avec ses groupes et avec ses assemblées générales aussi de son côté. Les mouvements ouvriers via ses syndicats divers et variés, j'ai envie de dire. Je n'aurais pas beaucoup plus d'éléments à te donner. Effectivement, la stratégie des sacs composantes n'est pas la même. Il y en a qui souhaitent rester à la critique du gouvernement. Il y en a qui essaient de profiter pour renforcer leur propre parti. Il y en a qui sont tout simplement en colère et qui vont manifester parce que c'est aussi également l'occasion d'illustrer les problèmes dans la société grecque, pas de ces moments-là, mais qui sont chroniques et qui durent depuis très 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 longtemps.
Quelle est l'attitude, comme ça, si tu as un peu des infos, du mouvement fasciste, hein, puisque en Grèce, quand même, avec Aube Dorée, vous avez historiquement un parti d'extrême droite, une organisation fasciste qui est quand même assez importante.
Depuis donc la condamnation, on va dire, des têtes de l'Aube Dorée, mmh. et donc de la condamnation de l'organisation en tant qu'organisation criminelle, on va dire que déjà il y a eu un recul. Ça, c'est les premières années. Et politiquement, il est intéressant de mentionner que le gouvernement actuellement au pouvoir, donc la droite conservatrice, elle a pris au sein d'elle, on va dire, des éléments qui avant flirtaient avec les partis nazis. Donc quelque part, on pourrait dire que tant sur la politique en général que sur des choses concrètes, le gouvernement actuel a adopté les modus operandi de facho. Mmh. Un exemple, ce qui se passe dans les frontières. Mmh. Il y a quelques jours, il y a encore un ministre qui est sorti et qui a parlé des migrants qui essaient de traverser la frontière par la mer. Il y a eu un discours, le même discours qu'on pouvait entendre par quelqu'un de l'Aube Dorée. Donc, si tu veux, politiquement, le paysage, il a bougé vers la droite, comme dans d'autres endroits.
Oui, comme en France, par exemple.
Oui. Bon, après, je ne pourrais pas dire que les fachos, ils sont forts dans la rue, mais voilà, les dernières années, ils reviennent. Et du coup, effectivement, ils reviennent. Et de l'autre côté, il y a eu de la résistance qui s'organise face à cela. Ils ne sont pas du tout au même niveau, par exemple, de 2013. Mm. Mais ils ne sont pas non plus au même niveau que 2019, où là, ils étaient vraiment très faibles. Donc, on peut voir effectivement des attaques à des migrants, des attaques à des cimetières, par exemple, juifs ou musulmans. Mais l'intensité, elle n'est pas comme avant. Pour autant, le danger, le risque, il est là. Et à prendre en compte ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que c'est une partie des politiques qui est mise en place, elle est à cette couleur-là. Hein, donc. Ça doit nous faire réfléchir. Ils participent ou pas? Oui, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde, au-delà de l'appartenance à des partis politiques, qui participent au mouvement. S'il y a des fachos parmi eux, oui, je pense qu'il y en a, oui, effectivement.
C'est vraiment un soulèvement plus populaire, qui n'est pas forcément dirigé par des organisations. C'est un peu tout le monde qui explose.
Oui, j'ai l'impression, parce que si tu veux, les points communs, on peut les retrouver sur la gestion de la société et la corruption profonde qu'il y a, tant en Serbie, on parle des Balkans, non?
Ouais.
Donc, voilà, on peut trouver des similitudes dans des pays des Balkans. Et là, sur la question de la corruption, je pense que voilà, tout autant en Grèce qu'en Serbie, il y a des champions. Hein, c'est...
Ouais, on n'est pas mal non plus. Hein. En France,
on
n'est
pas
je
mal,
le dis,
hein. Parce qu'en France, c'est mieux camouflé, je ne sais pas comment le dire. Ou c'est même...
institutionnel.
C'est même pas légalisé la corruption, oui. C'est ça qui est excellent, d'ailleurs. Voilà. Mais je pense que la question de la corruption préoccupe les gens. Pourquoi ? Parce que dans les actes de vie quotidienne, ça influence. Très concrètement, quand est-ce que tu vas pouvoir te faire opérer, quand il y a un médecin qui est, voilà, qui, quand j'ai les pistons, ou quand je lui file un peu de l'argent sur la table, ou quand il s'agit de mon cousin, là je vais pouvoir me faire opérer rapidement, sinon il faut attendre je ne sais pas combien de temps. Donc si tu veux, voilà un exemple de vie quotidienne, mais après, qui va évidemment plus loin, qui concerne la vie sociale. Comment se fait-il qu'il y ait, voilà, la question de toujours, que nous posons à tous les endroits du monde, comment se fait-il pour un si grand scandale que personne ne soit condamné, puni, bougé de sa place? Comment est-il possible, en fait? Il n'y a personne qui est responsable pour des choses graves qui se passent dans la société.
Il y a aussi le fait que on sent bien quand même qu'il y a énormément d'argent partout, et que il ne ruisselle pas sur le peuple, hein, j'ai envie de dire, et que l'argent manque pour tout ce qui est bien commun, alors que on voit bien qu'il y a des fortunes qui se réalisent et qui doublent en ce moment ces dernières années, que la corruption, elle enrichit toujours les mêmes au détriment du tout un chacun.
Mais si tu veux, moi je reprends les termes que tu as dit. Le ruissellement s'avère bien qu'être à la fin une illusion.
Bien sûr.
Quand les rapports de forces sociales l'imposent, là ils vont donner de l'argent peut-être au public. Quand les rapports sociaux, il n'est pas là, et il n'est pas là les rapports de force depuis des décennies, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans l'autre direction.
Dans d'autres poches.
Ruissellement d'une poche de quelqu'un de l'élite à la poche de quelqu'un d'autre de l'élite. Donc c'est ça le ruissellement du capitalisme. Et puis après, les quelques petites victoires et avancées que nous avons eues, c'est parce que nous avons été assez capables pour les imposer. La question maintenant, Nadia, qui se pose, mais pas seulement en Grèce, mais aussi par exemple en Serbie, que tu l'as évoqué, c'est comment va-t-on faire? Parce que très concrètement, demain tu vas en Grèce, moi je te dis, Nadia, ne prends pas le train. Mais c'est vrai, moi j'ai des enfants, honnêtement, j'ai discuté avec un ami il y a quelques semaines, je pense que je n'ai pas envie d'aller en train avec mes enfants, j'ai peur en fait. Donc en fait, comment va-t-on faire? Parce qu'il est certain que ce gouvernement-là ne veut pas filer de l'argent, mais il est certain que même un gouvernement, on va dire, il y en a encore qui, tu sais, qui espèrent et qui ont l'illusion, des gosses, il est quasi certain qu'ils ne vont pas donner de l'argent. Si tu veux, en Grèce, là, il y a l'économie nationale, elle est, on va dire, endettée. Du coup, une partie du PIB part pour payer la dette publique. Comment dans ces conditions, comment dans des conditions d'appauvrissement général, va-t-on pouvoir reconstruire quelque chose de sécure? C'est vraiment une question profonde. Est-ce que les partis qui promettent de faire quelque chose, est-ce qu'ils sont en capacité de le faire? Personnellement, je ne pense pas. Et du coup, encore une fois, la question, c'est comment on va créer ce rapport de force qui va imposer, en fait, des changements? Parce que pour le moment, on n'est que sur la parole. Hein. Je rappelle, je pense que tu l'as mentionné tout à l'heure. Je rappelle que le gouvernement donc de gauche, avec Syriza, a avancé avec la vente d'une grande partie de la SNCF à l'entreprise italienne en 2016. Plus du principe, il était bien content. Voilà, c'est porteur d'espoir. Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il avait dit à l'époque.
Dans les mouvements qui voient le jour, il y a possibilité de discuter, de réfléchir et de construire l'avenir. En France, là, ça manque un peu de mouvement social où on peut à nouveau se poser la question de l'avenir.
Ça, c'est vrai. Après, c'est effectivement ce que tu as dit, c'est super important, Nadia. C'est-à-dire que là, on voit en face de nous un mouvement, on voit en Grèce, un mouvement, on n'a pas du tout l'habitude de voir ce type de mouvement. Et dans le marasme général, j'ai envie de dire, c'est porteur d'espoir. Porteur d'espoir qu'il y a, je ne sais pas combien, des centaines de milliers, des ans ou plus encore, des millions, qui sortent dans la rue pour revendiquer ce qu'il est réduit. Donc c'est porteur d'espoir, avec des contradictions effectivement, mais nous ne pouvons que nous appuyer là-dessus pour espérer le mieux. Est-ce que ça va continuer? Oui, ça va continuer. En Grèce, ça va continuer. Moi, d'après mes informations, en Serbie, ça va continuer. Mm-hmm. Est-ce que ça va passer, est-ce que ça va, par exemple, concerner la corruption dans la vie sociale en général? Ou ça va, je sais pas, se politiser au point de dire, de mettre en cause les politiques de l'Union européenne? Tout ça, c'est à découvrir. Mais en tout cas, le mouvement, il est porteur de l'espoir. On doit le renforcer. Ici, dans la ville où on habite, ici au sud de la France même, nous nous sommes mobilisés. Et nous allons continuer à nous mobiliser. Et ma foi, c'est ma foi que j'ai pas de foi.
Mais en tous les cas, ce serait vraiment important de faire des réunions publiques pour donner ces informations. Enfin, on voit comment ça se diffuse sur l'ensemble des Balkans. Et on voit que toutes les questions qui sont posées nous regardent aussi.
Exactement.
Ce serait bien de commencer à voir les choses d'une manière plus européenne, même internationale. Plutôt que se replier sur l'hexagone.
Bah oui, parce qu'en fait, si tu veux rien que sur les chemins de fer, si on regarde autour de nous, si on regarde dans le monde, la même histoire se répète.
Bien sûr.
C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé en Angleterre il y a 30 ans, en Allemagne il y a 20 ans, en Argentine je ne sais combien de temps, mais en fait, c'est plus ou moins la même histoire qui se répète.
Et en France, un secteur ferroviaire qui se privatise également.
Qui se privatise, qui devient de moins en moins accessible aux gens, on n'est pas oublié que c'est une partie de notre argent qui finance aussi la SNCF. Donc c'est censé être un service public, non? Moi, j'ai le senti le plus de services publics dans la SNCF sur les amendes que je prends dans les trains, Nadia. Là, vraiment, j'ai senti des efforts que j'ai faits pour les services publics ferroviaires. Voilà.
De la sécurité.
Le cri des poètes, de ceux qui manifestent, celui des révoltés, le cri des troubles faits, le cri qui les dérange, celui qui les inquiète, celui qui les accuse, celui qui les conteste, le cri qui les empêchera de dormir, celui qui effacera leurs dédains et leurs sourires, le cri des nôtres, celui des anonymes, le cri du peuple, le cri des victimes, le cri strident pour briser le silence, le cri révolutionnaire pour bouger les consciences, le cri de colère des damnés de la terre, et celui des familles à qui ont perdu un frère. Les petites gens, les baïonnés, les sans-voix, nous les moins que rien, les broyés, les sans-droits de Gaza, de Honé ou de Tunis, on crie pour exiger justice.
Una noche fría, todo arderá.
Nous diffusons un extrait de l'intervention de Fabrice Alfi, journaliste d'intervention, lors de son audition dans la commission d'enquête parlementaire du Sénat sur la corruption en France. Un véritable sport national qui touche nos dirigeants.
On est citoyenne et citoyen d'un pays qui a déjà eu un président de la République définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Jacques Chirac, dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour des atteintes à la probité, il s'appelle Alain Juppé, dont le successeur de Jacques Chirac a été définitivement condamné pour une atteinte à la probité, il s'appelle Nicolas Sarkozy, et dont le Premier ministre a été définitivement condamné pour atteinte à la probité, il s'appelle François Fillon. Voilà. Donc ça veut dire deux chefs d'État, deux chefs de gouvernement qui ont été définitivement condamnés pour des atteintes à la probité. Jérôme Cahuzac, le ministre du budget qui était un fraudeur fiscal, ou même pendant la présidence socialiste de M. Hollande, le patron du parti présidentiel, Jean-Christophe Cambadélis, quand il est désigné à la tête du parti socialiste, est déjà condamné deux fois, définitivement pour des atteintes à la probité. On n'a pas pu en trouver un autre. On a mis quelqu'un qui avait été condamné déjà deux fois. Mars 2017, Emmanuel Macron dit qu'évidemment, un ministre mis en examen devra démissionner. Nous avons une ministre de plein exercice qui va être jugée pour corruption. Nous avons un secrétaire général de l'Élysée qui est mis en examen et qui va probablement être renvoyé devant un tribunal correctionnel pour des faits de prise illégale d'intérêt. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été la griffure, si vous me permettez l'expression, de l'affaire dite Dupont-Moretti, qui s'est retrouvée devant ce que beaucoup d'hommes et de femmes politiques considèrent comme une sorte de furoncle démocratique, qui est la Cour de justice de la République. Quand même imaginez que nous sommes l'un des seuls pays au monde, à avoir pour les délits commis par des membres de gouvernement en fonction un tribunal d'exception, et qui est jugé par des parlementaires. Ça raconte quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'est quand même le monde politique qui juge le monde politique. Et d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'affaire Dupont-Moretti, ça n'est évidemment pas le lieu, mais je ne connais pas un juriste qui ne discute pas la décision de la CJR sur la relaxe de la Cour de justice de la République pour les prises illégales d'intérêt dont il était soupçonné. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi ça me paraît important ? Parce que précisément, ce qui vous occupe, la délinquance financière, la corruption, par définition, par définition, c'est la rencontre du pouvoir et de l'argent. Ça concerne assez peu les nécessiteux. Et je vous dis ça parce que dans ce type de dossier, ce que je vois d'où je suis, c'est que les mises en cause, par définition, sont des gens puissants. Ils ont des réseaux médiatiques, des réseaux financiers, des réseaux politiques. Et pourquoi je dis ça? Parce que les mises en cause dans ce type d'affaires ont la capacité d'imposer un narratif dans la conversation publique autour de ces affaires-là. Dans ces dossiers-là, un ancien président mis en examen peut aller pendant 27 minutes aux 20h de TF1 se défendre. Et puis quand ce même ancien président de la République est remis en examen en 2020 pour association de malfaiteurs, il va 45 minutes sur le plateau de la première chaîne d'info en continu BFM TV. Je ne suis pas sûr que ni la première chaîne que j'ai citée, ni la seconde, ont consacré ici 27 minutes et là 45 minutes pour expliquer, ne serait-ce qu'expliquer, avec toutes les prudences d'usage, quels sont les faits qui peuplent le dossier qui vaut les mises en cause. C'est dans ce type d'affaires où l'on voit un renversement de perspective qui, moi, me paraît proprement sidérant, sinon scandaleux. Les mêmes qui demandent la tolérance zéro pour la délinquance du quotidien, la délinquance de droit commun, ont la capacité à s'inviter justement dans les médias pour faire le procès de la justice. Il m'est arrivé de participer à des émissions de télé. La question qui m'était posée par mon propre milieu médiatique, c'est est-ce qu'il faut supprimer le parquet national financier ? C'est déjà arrivé, ça, après des condamnations, parce que le parquet serait un organe militant ou je ne sais quoi, dévolu à des causes obscures, qui sont des discours de populisme anti-judiciaire très connus. On a les mêmes au Brésil avec Bolsonaro, on a les mêmes aux États-Unis avec M. Trump, on a eu les mêmes avec Berlusconi en Italie, on a le même avec M. Netanyahou concernant ses affaires de corruption en Israël, Marine Le Pen. L'affaire des détournements présumés de fonds publics au Parlement européen n'a jamais intéressé, n'a jamais fait l'ouverture des journaux, n'a jamais fait l'ouverture des matinales. En revanche, c'est devenu un événement quand Marine Le Pen a décidé d'en faire un événement au lendemain des réquisitions du parquet, en allant aux 20h de TF1 pour dire que c'était scandaleux. Elle a parfaitement le droit de le penser. Mais ça nous dit quelque chose, là aussi. Il me semble que le fond du dossier qui porte sur le détournement présumé, encore une fois, de 5 millions d'euros d'argent public, de votre argent, de notre argent, mon argent, ça n'intéresse pas. En revanche, quand la mise en cause décide de dire que c'est un scandale, que le parquet ose requérir une condamnation à effet immédiat avec exécution provisoire, on retombe dans ce qu'on entend, la République des juges, le gouvernement des juges, la justice contre la démocratie, le sentiment d'impunité. La première des racines, il me semble que c'est le sentiment d'impunité. Qu'est-ce qui fait que Jérôme Cahuzac, fraudeur fiscal, il le sait, lui, qu'il a un compte en Suisse et à Singapour, accepte d'être ministre du budget quand François Hollande le lui propose? C'est quand même fascinant. Il dit oui, il sait qu'il est fraudeur, lui. Et il accepte de devenir le ministre qui doit, du point de vue du gouvernement, lutter contre la fraude fiscale. Qu'est-ce qui fait que Claude Guéant, déjà définitivement condamné pour avoir détourné l'argent de la police, laisse traîner dans son secrétaire de son appartement la trace d'un virement de 500 000 euros qui va causer sa perte dans l'affaire des financements libyens pour laquelle il est toujours évidemment présumé innocent. L'ancien directeur général de la police nationale, ministre, préfet, secrétaire général de l'Élysée, c'est le sentiment d'impunité. Je pense que c'est une racine qui est absolument très ancrée. Le ministère de l'Intérieur a rendu public il y a un an et demi, dans mon souvenir, des statistiques. C'est la première fois qu'on a eu un rapport statistique du service de statistique du ministère de l'Intérieur, qui est un organe absolument formidable, qui fait des études absolument passionnantes sur les atteintes à la probité. J'ai retrouvé le rapport pour les années 2016 à 2021, elles ont explosé de 28%, d'après le ministère de l'Intérieur. Plus 28%. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que ça fait l'ouverture des journaux? Est-ce que ça a suscité un débat politique au sein de l'exécutif pour dire plus 28%, vous imaginez, plus 28% d'accidents de la route? On dirait qu'il faut un plan national de sécurité routière. Vous imaginez s'il y avait plus 28% pour les cambriolages à Paris? Les autorités locales parisiennes diraient qu'il faut un plan là, de lutte contre les cambriolages à Paris. Plus 28% des atteintes à la probité. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule personne qu'on peut prendre au hasard dans la rue qui soit au courant de ce dont nous parlons. Le crime financier, même si au regard du code pénal, ça n'est pas un crime, c'est un délit, Peut-être d'ailleurs faudrait-il réfléchir à cela. Le crime financier s'adapte toujours. Et il a les moyens de s'adapter vite. C'est pour ça que c'est un écosystème général. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ces questions-là si on ne parle pas d'un côté de la volonté politique, de l'autre de la force des lobbies, ici du sentiment d'impunité, là de la mobilité des paradis fiscaux, ici de la faiblesse des contre-pouvoirs, là encore du peu d'appétence médiatique pour ces questions-là dans un pays où l'essentiel des médias, je suis désolé de le dire, appartient à des capitaines d'industrie qui ont eux-mêmes des problèmes pour une grande partie avec la justice financière. Peut-être que ça n'aide pas, ça, à ce que dans les médias concernés et détenus par ce type de responsable économique pour se dire que « Ah, c'est peut-être intéressant pour le grand public ». Vous savez, moi j'entends toujours « Ces affaires, elles sont compliquées ». Je ne comprends pas cet argument. Je veux dire, notre métier, c'est quand même de rendre accessible ce qui est compliqué, premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression que on n'a pas de difficulté à faire des éditions spéciales sur des OQTF. Le droit administratif des étrangers, c'est très compliqué. Et pourtant, on le fait. Mais ce que j'essaye de dire en vous répondant, c'est que le crime s'adapte. Vous parliez des paradis fiscaux. Bon. Pendant très longtemps, la Mecque des paradis fiscaux, c'était en effet la Suisse, ici le Luxembourg, Singapour. Et puis des lois, des dispositions internationales ont permis que ça change. Bon, c'est ailleurs maintenant. Et il y a des trous noirs dans le monde qui demeurent. Donc ça pose des questions diplomatiques, ça pose des questions politiques. Dubaï est un trou noir absolu qui ne coopère pas judiciairement. Les Émirats ne coopèrent pas judiciairement. C'est une réalité. Et ça devient du coup des lieux où on retrouve, et là ça me paraît intéressant et ça va dans le sens de ce qui a été dit par Frédéric Ploquin, c'est que peut-être on a un biais dans notre façon institutionnellement de lutter contre ces phénomènes-là, que j'appellerais le syndrome des silos. Comme s'il y avait d'un côté les stupes, de l'autre le crime de sang. Ici, la criminalité organisée. Là, le financier. Comme s'il n'y avait pas ce que les spécialistes appellent des phénomènes d'hybridation. D'hybridation. Il y a des lieux de l'hybridation. Il y a des lieux de cela. Vous avez cité tout à l'heure un livre que j'ai commis d'argent et de sang. L'affaire dite des quotas carbone est une histoire incroyable d'hybridation entre le crime, tel qu'on en a une acception populaire, les bandits, et les cols blancs. C'est même la fusion, j'ose dire, chimiquement pure de cette histoire. Mais ces phénomènes existent aussi, y compris avec une partie de responsables qui ont des charges publiques. C'est une histoire sur laquelle Frédéric a beaucoup écrit, les histoires de celui qui a été surnommé le parrain des parrains, Michel Tommy, qui est l'un des inventeurs, avec son ancien associé, du concept de Corse Afrique. C'est quelqu'un qui avait un pied à la fois dans des phénomènes mafieux insulaires, dans le monde des jeux et dans le monde politique. Il a été condamné dans une affaire concernant un ancien ministre qu'a rencontré 2 mois avant sa mort, Frédéric, dans cette maison. Je vous parlais tout à l'heure de l'affaire des financements libyens. Il y a un des prévenus qui s'appelle Alexandre Joury, qui est présumé innocent, qui à lui seul pourrait incarner ce que j'essaye de vous dire sur les phénomènes d'hybridation. Et pour lutter face à cela, c'est vrai que nous avons des services enquêteurs, qui de la gendarmerie, qui de la police, qui des douanes, qui, y compris dans les parquets spécialisés, s'attachent à un type de délinquance et coopèrent peu entre eux pour essayer, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais pour essayer de partager l'information et avoir une vision d'ensemble. Et c'est l'une des prises de conscience aujourd'hui, notamment dans la lutte contre le narcotrafic, c'est qu'on ne peut pas lutter contre le narcotrafic si on ne lutte pas financièrement contre le narcotrafic. Je veux dire, limiter la lutte du narcotrafic à la saisie, à se dire ce qu'il faut, c'est saisir, mais en fait, ça ne sert à rien. Enfin, je parle sous le contrôle de Frédéric, qui connaît beaucoup mieux que moi, mais enquêter dans un sens, ça on sait faire, pour trouver un peu de la drogue qui circule, un peu, hein, parce que c'est infinitésimal ce qu'on saisit par rapport à ce qui circule. Mais dans l'autre sens, faire l'enquête dans l'autre sens pour remonter les flux financiers, c'est ça. Enfin, on n'est pas face à des philanthropes, ils font ça pour l'argent.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes. N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.